retrouvons Cédric Bauduin, bénévole depuis 10 ans au sein de l'association Eure-et-Loir Nature. Il est parti travailler, il y a plusieurs années de cela, auprès du groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais, où il exerce encore aujourd'hui. Sa spécialité, l'étude et le recensement des mammifères. Il y a quelque temps, Cédric a eu une très bonne idée, revenir vivre en Eure-et-Loir. Dans ses cartons, il emmènera avec lui ses compétences professionnelles pour les mettre bénévolement au service d'Eure-et-Loir Nature. Son objectif, relancer une dynamique mammifère au sein de l'association. Mais de quels mammifères parle-t-on exactement? Quelles sont les différentes manières de les recenser? Et surtout, que nous disent ces données des milieux naturels? C'est au bout du fil que Cédric Bauduin répond à mes questions aujourd'hui, en attendant de pouvoir l'accueillir dans nos studios euréliens. Cédric Bauduin, bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions aujourd'hui à distance parce que vous êtes un Eurélien exilé volontaire. D'où nous appelez-vous aujourd'hui?
Alors, je vous appelle du nord de la France, à Saint-Amand-les-Eaux, du côté de Valenciennes.
Vous êtes néanmoins toujours proche de l'Eure-et-Loir où vous revenez régulièrement et où vous projetez d'ailleurs de revenir vous installer, c'est ça?
Oui, c'est bien ça en fait. Il y a 7 ans maintenant, j'ai dû m'exiler du département pour raison professionnelle. Et maintenant, j'essaye, en tout cas pour 2021, de revenir dans la région.
Alors avec des tas de bonnes idées, notamment en ce qui concerne l'association Eure-et-Loir Nature, vous allez revenir fort de votre expérience auprès de votre employeur actuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, c'est ça. En fait, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis bénévole à Eure-et-Loir Nature, où j'observe la nature d'une manière générale, aussi bien les oiseaux, les mammifères, les insectes, les amphibiens, les reptiles. Et du coup, voilà, j'ai dans le cadre de mon métier actuel au sein du groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais, j'étudie énormément les mammifères. Et je me suis rendu compte que justement, il y avait un certain déficit de connaissances dans l'Eure-et-Loir sur ce groupe faunistique. Et c'est pourquoi je voudrais essayer de lancer une dynamique de recherche, en tout cas pour améliorer les connaissances sur ce groupe.
Alors on a vu dans Touche et Terre la saison dernière qu'Eure-et-Loir Nature est une référence en matière de recensement de chauves-souris, d'oiseaux ou encore de certains insectes. Mais c'est vrai qu'on a rarement évoqué d'autres groupes faunistiques. Est-ce que c'est parce qu'ils seraient plus marginaux en Eure-et-Loir?
Non, c'est pas forcément qu'ils seraient plus marginaux, parce qu'on a des espèces qui sont relativement communes pour le groupe des mammifères, hein. Mais c'est simplement en fonction aussi des compétences des bénévoles et des salariés. Et il y a certains groupes qui sont aussi beaucoup plus attractifs que certains autres, notamment les oiseaux ou les insectes qui sont assez faciles à observer. Et donc, il est beaucoup plus facile de sensibiliser et d'observer et de communiquer sur ces espèces-là. Alors que le groupe des mammifères, généralement, avec leurs mœurs nocturnes, ils sont beaucoup plus difficiles à observer. Et il faut entreprendre des études un peu plus complètes, en fait, pour pouvoir connaître leur répartition.
Quand on parle des mammifères, on pense immédiatement aux plus visibles, même s'ils se font déjà extrêmement discrets, à savoir le cerf, le sanglier.
Oui, c'est ça. Ça, c'est les animaux les plus visibles, donc que tout le monde connaît. Les habitants, les naturalistes connaissent très bien. Mais par contre, il y a toute une partie d'espèces qui ne sont pas du tout connues, qui ont des mœurs, vraiment plutôt nocturnes et qui sont assez difficiles à observer. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir, disons, former entre guillemets les bénévoles à essayer de trouver les indices de présence de ces espèces-là.
En
Oui.
préparant cette émission, vous m'avez parlé notamment d'une famille, celle des gliridés, et puis ce qu'on appelle les micro-mammifères. Alors, qui sont-ils?
Oui, c'est ça. Donc en fait, les gliridés, il y a 3 représentants. Il y a le loir gris, l'hérault et le muscardin. Donc c'est 3 espèces qui vivent dans des milieux plutôt de type bocager, de type forestier. Mais pour le loir et le lairot, en fait, lors de leur période d'hivernage, parce que ce sont des mammifères qui vont dormir durant l'hiver, notamment le loir gris, on l'appelle aussi le grand dormeur, hein, plus communément. Et du coup, en fait, ça peut arriver qu'ils se rapprochent en fait du milieu urbain et justement essayer d'arriver de faire leur nid d'hiver dans les isolations de maisons. Et c'est pour ça qu'ils sont pas très appréciés lorsqu'on les trouve dans ces lieux-là. Et les micro-mammifères, en fait, c'est tous les représentants de type campagnol, musaraigne, souris, rat, en fait, qui sont des espèces qui sont également de mœurs nocturnes, qui sont très difficiles à observer de jour Et donc, en fait, pour les étudier, il n'y a pas 36 façons de faire, il y en a deux, soit, et c'est généralement morbide, hein, désolé, mais c'est soit par la récupération de cadavres, notamment par les chats domestiques qui ramènent des souris ou des musaraignes, mais c'est aussi par l'étude des pelotes de réjection des rapaces nocturnes. En fait, les rapaces nocturnes vont avaler en entier les proies et vont recracher ce qu'on appelle des pelotes de réjection. C'est tout simplement des éléments des micro-mammifères qui ne sont pas digérés, comme les os et les poils. Lorsqu'on dissèque en fait cette pelote de réjection, on va retrouver le crâne et les mâchoires, et c'est grâce à ces éléments-là qu'on va pouvoir identifier les espèces qu'elles ont ingérées.
Alors, quelles sont les autres façons de partir sur la piste de tous ces mammifères?
Bah, du coup, après, pour identifier la présence des mammifères, il y a beaucoup de façons de faire, notamment par la recherche d'indices de présence. Alors, les indices de présence, par exemple, pour les gliridés, pour revenir sur ces espèces-là, en fait, ils ont formé des nids. Ça va être soit des nids d'hivernage, soit des nids de mise bas. Et en fait, c'est des nids qui vont être des sortes de boules entourées de feuilles, de branchages, etc. Et en fonction de la position et de la taille des nids, on va pouvoir savoir quelle espèce c'est. Ensuite, on peut partir à la recherche des empreintes. Les empreintes sont des bons éléments d'identification des espèces. Et ça reste relativement facile d'identifier, par exemple, voilà, le cerf, le chevreuil, le sanglier grâce aux empreintes. Mais ça commence à être un peu plus compliqué lorsqu'on va étudier les mustélidés, donc tout ce qui est fouine, martre, la belette ou l'hermine, qui sont des individus de taille à peu près identique. Et donc là, voilà, il va falloir être beaucoup plus fin pour pouvoir étudier, l'empreinte. Après, il y a aussi l'étude des crottes. Voilà, chaque espèce fait des crottes de taille, de type différentes en fonction du régime alimentaire. Et voilà, quoi. Après, il y a malheureusement aussi les observations directes de la mortalité par la circulation routière, notamment. Donc ça, c'est des bons indices de présence, même si, encore une fois, c'est un peu morbide.
Alors, quel est l'intérêt d'un suivi des mammifères présents sur notre département?
En fait, l'intérêt, il est déjà d'améliorer dans un premier temps les connaissances sur la répartition des espèces. Actuellement, on considère qu'il y a 36 espèces de mammifères qui ont été répertoriées en Eure-et-Loire, alors qu'en fait, si on regarde la répartition de la majorité des espèces à l'échelle française, on peut considérer qu'en fait, la biodiversité en termes de mammifères devrait être représentée par une cinquantaine d'espèces. Donc ça veut dire qu'il y a des espèces qui devraient être présentes mais qui n'ont encore jamais été observées. C'est le cas du Loir, par exemple, c'est le cas aussi de la crocidure des jardins, qui est un petit micro-mammifère. Ensuite, ça va être de suivre l'évolution des populations de ces espèces-là. Par exemple, on a des espèces qui commencent à réapparaître et qui commencent à regagner en fait des habitats qu'ils avaient perdus d'antan. On a noté par exemple la présence du loup l'année dernière. Donc ça, c'est une réapparition, même si il y a très peu de chances qu'il s'installe durablement. Par contre, il y a d'autres espèces qui sont à la porte du département, comme la loutre, le castor ou encore le chat forestier, qui sont vraiment des espèces emblématiques, le castor et la loutre des milieux humides et le chat forestier des milieux forestiers, comme son nom l'indique. Et en fait, c'est très intéressant de suivre l'évolution de ces espèces-là, puisque si elles réapparaissent et si elles s'installent durablement dans le département, ça veut dire que les habitats correspondent, ça veut dire que l'activité humaine n'a pas un impact si important sur ces espèces-là. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a une bonne dynamique de ces espèces-là. Et donc ça, c'est important pour ensuite permettre de catégoriser ces espèces-là dans ce qu'on appelle une liste rouge des espèces, et ce qui va permettre de catégoriser les espèces en fonction de critères de menace.
Impossible de ne pas évoquer les problèmes de cohabitation entre certains hommes et certains mammifères. On pense bien sûr en premier lieu aux sangliers, mais aussi à tous ceux qui sont considérés comme des nuisibles, comme le renard ou le blaireau. Est-ce que mieux connaître ces espèces et leur implantation dans le département, c'est aussi commencer à sortir de l'impasse?
Oui, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir une bonne connaissance sur les espèces. Justement pour éviter que celles-ci soient classées dans les espèces nuisibles, par exemple. La connaissance, pour l'instant, on l'a pas forcément pour toutes les espèces. Donc, voilà, on va dire qu'historiquement parlant, certaines espèces sont classées nuisibles, donc elles restent nuisibles, afin qu'on puisse apporter des connaissances pour éviter de les classer autrement ou de les protéger. Mais ça avance au fur et à mesure, puisque très récemment, par exemple, le campagnol amphibie a été protégé par la loi, alors qu'en fait c'était une espèce qui était encore piégée et souvent confondue, notamment avec le rat musqué, qui lui est une espèce exotique envahissante, et donc il y a un intérêt de le piéger, puisqu'en fait c'est des espèces comme le ragondin qui font des dégâts énormes dans les berges, par exemple, et qui vont détruire l'habitat. Et du coup, voilà, il y a tout intérêt à justement améliorer la connaissance, suivre l'évolution des espèces pour les protéger par la suite. Alors la protection, ça ne vise pas uniquement de faire en sorte que ces espèces ne soient plus classées nuisibles, mais c'est aussi de protéger l'habitat d'une manière générale qui servira de toute façon pour d'autres espèces.
Très bien, merci beaucoup pour tous ces projets qui concernent l'association Eure-et-Loir Nature. Pour quand est prévu votre retour en Eure-et-Loir, si ce n'est pas trop indiscret?
C'est pas du tout indiscret, ça sera probablement début 2021. Pour l'instant, c'est en cours, j'ai pas de date précise à vous communiquer, mais d'ici début 2021, je serai de retour.
Très bien, bien, vous serez bienvenue dans les studios de Radio Grand Ciel.
Eh bien, merci.